France Inter.
Bonjour les fous de flûte, merci à tous de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Qui veut gagner la flûte à bec. Vous le savez, chaque samedi matin, j'accueille des invités qui sont réputément aussi eux-mêmes des flûtistes passionnés de flûte, puisque aujourd'hui j'ai encore une belle association de flûtistes autour de moi, de fous du flutio. Je me tourne tout de suite vers mon premier invité qui est juste à ma droite, et on a enfin dévoilé récemment la vérité sur un énorme mystère. Il n'est pas de la famille de Dimitri Payet, le joueur de l'OM. Il porte le prénom préféré des Gilets jaunes. C'est à lui qu'on fait référence dans l'expression Strass et Payet. Il joue son spectacle Emmanuel 2 et il cartonne. C'est Manu Payet. Bonjour Manu.
Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour fans de flûte.
Quelle grande joie de vous recevoir aujourd'hui.
Et moi je suis ravi d'être là.
Pour venir gagner, il n'y en a qu'une seule. J'ai 5 candidats aujourd'hui, mais il n'y aura qu'une flûte à gagner. Je me tourne vers ma deuxième invitée tout de suite. Elle est actrice, scénariste, réalisatrice. Tout un tas de mots qui finissent en is. Bien qu'elle ne soit pas une cicatrice. Ben, ça glisse, comme le dit un d'autres deux invités. Elle se situe pile entre Anne 1 Petrini et Anne 3 Petrini. C'est Anne de Petrini qui est avec nous. Bravo. Merci d'être venue, Anne.
Merci pour cette introduction.
Pour remporter cette belle flûte, juste à côté de vous, c'est une sorte de Guillaume Meurice, mais en sympa, selon les lecteurs du Figaro. Sa chronique sur France Inter s'appelle Complètement à la rue, et que j'avoue que c'est une expression qui correspond aussi à mon état d'esprit quand j'ai découvert le conducteur de cette émission ce matin. Merci d'être là, Quentin Lui.
Merci beaucoup, Thomas.
On vous entend dans Zoom Zoom Zen tous les jours avec Mathieu Noël.
Oui, c'est ça, la bande autour d'un mot, et voilà.
Et ce mot aujourd'hui, c'est flûte, encore une fois, je le dis. Je me tourne vers mon quatrième invité, ça me fait extrêmement plaisir qu'il soit là aujourd'hui, je suis infiniment honoré, parce qu'en plus, pardon de jouer star, mais on vous imagine pas trop du matin. Vraiment, à la base, je me disais, vous êtes arrivé le premier, ça fait une heure que vous êtes dans les locaux de Radio France, à attendre tous nos camarades. En 95, vous changiez, tout n'est pas si facile, et je crois qu'il va s'en apercevoir grâce à mes questions, aujourd'hui.
Si j'avais su qu'il y avait une flûte à gagner, je serais resté chez moi, en fait.
C'est ça. Il n'y a qu'une flûte à gagner. Et alors, c'est la première fois que je reçois un invité dont j'ai joué un rôle dans la série sur sa vie, puisque j'ai joué dans la série Le Monde de Demain. Et il faut savoir que quand le producteur m'avait présenté à vous en disant, Joystar, que c'est moi qui allais jouer le rôle de Jacques Massadian, vous m'aviez dit, ah ben c'est bien, il a une bonne tête de fouine. Et j'étais là, voilà, ça me va, c'est bien.
Petit compliment.
Et juste à côté de moi, je l'ai découvert hier quand une fois c'est Jeanne, ma programmatrice, qui m'a dit, regarde, cette nana, elle est géniale. Et c'est Anna Godefroy qui fait de nombreuses petites vidéos rigolotes sur Internet.
C'est ça.
Et pas que ça, voilà, vous faites des personnages. On peut vous découvrir donc sous le nom de Anna Godefroy, qui est votre prénom. Voilà.
Oui, c'est mon vrai nom. Ouais.
Merci d'être venu jouer avec nous. Merci. Pour la flûte. Alors, un petit rappel des règles. Vous êtes chacun équipé d'un buzzer, pas exactement chacun, parce qu'il y a 5 candidats, il y a 4 buzzers, donc prêtez-vous les buzzers. Manu Payet, faites retentir votre buzzer.
Écoutez ça.
Voilà, comme ça on a tout de suite une idée. Dès que vous avez une idée de la réponse, n'hésitez pas à utiliser votre buzzer. Je rappelle les règles, je pose des questions de Zikmu, et vous n'hésitez pas à répondre, les micros sont ouverts constamment. Jouons tout de suite. À qui veut gagner la flûte à bec ?
France Inter, Thomas VDB. Qui veut gagner la flûte à bec ?
Yes, he did. What the fuck is up, niggas and niggas? Oh, yeah. We back up in this motherfucker. You wouldn't believe me even if I told you, niggas. My game is cold. I can still mold you, niggas. Roll you, niggas, a fat stick of that crime. $160 million man, bitch. I'm bionic.
Alors, j'ai pas besoin de présenter, je pense qu'on a tous reconnu Snoop Dogg, le rappeur californien, avec ce morceau Still Smoking de 2022. Le rappeur californien Snoop Dogg, il emploie une personne dans sa vie qui est très très bien payée. $4,000 par mois pour occuper une fonction très particulière.
Pour le replay, c'est juin.
Ouais. Anne de Petrini, bonne réponse d'Anne de Petrini. Bravo. $4,000 par mois, effectivement, pour cette personne qui a imprimé son CV sur des feuilles OCB, semble-t-il. Et donc, il y a une nana qui s'appelle Ranagad Perrana.
D'accord.
Non, ça, c'est une formule pour transformer quelqu'un en crapaud.
C'est vrai que Ranagad, c'est un prénom.
Ranagad, Perrana.
Et donc il a indiqué, parce que donc il dit, elle roule les blunts à la perfection. Et il dit, comme il le dit, il dit, elle m'a envoyé son CV. Et dit, elle sait à la tête d'une personne si elle veut un blunt. Et ça, c'est vraiment une qualité professionnelle. Ah, ouais, je pense qu'on a tous un talent dans la vie. Et le talent de Ranagad Perana. C'est vrai qu'on a l'impression, c'est d'apparaître
Ranagad
comme ça.
Ranagad Perana. Je viens de le faire à chaque fois que tu le dis.
Ah, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans Harry Potter. Vraiment. Ranagad
Perana.
Bonne réponse de Anne de Petrini. Je ne sais pas s'il y a des gens que vous payez très cher dans la vie pour faire quelque chose à votre place, dans les gens qui sont autour de cette table.
Bah non, parce que j'ai pas d'argent, donc.
Anna Godefroy, non, c'est vrai. Non, je me disais, c'est à vous que je pensais particulièrement en posant cette question. Je me disais, je suis sûr qu'Anna Godefroy elle doit filer des fortunes à des gens dans la vie pour s'occuper d'elle. Ok, et ben écoutez, on va écouter tout de suite la deuxième question. Black Sabbath, alors c'est donc le groupe de hard rock des années 70, on connaît tous Black Sabbath. Est-ce que vous pouvez me dire la raison pour laquelle Tony Iommi, le guitariste de Black Sabbath, il s'est mis à écouter dans sa vie un moment, alors qu'il n'était pas du tout prédestiné à cette musique-là, il adorait le métal et tout, il s'est mis à écouter extrêmement assidûment la musique de Django Reinhardt, le roi du jazz manouche, alors qu'à la base c'était vraiment pas sa passion. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle Tony Iommi de Black Sabbath s'est mis à écouter comme un fou la musique de Django Reinhardt?
Il l'a découvert dans un lieu particulier ?
Non, c'est pas lié à un lieu particulier.
Par amour ?
C'est pas lié à l'amour.
Il fait partie de sa famille.
Il fait pas non plus partie de sa famille.
Est-ce que c'est lié à l'anatomie ?
C'est lié à l'anatomie.
Oh,
alors, exactement. Bonne question.
Ah, il a perdu des doigts. Il a perdu un doigt ou deux.
Il a perdu des doigts, exactement. Wow. Comme Django Reinhardt, qui avait perdu des doigts et qui s'était blessé à l'occasion de l'incendie de sa roulotte. Et donc, Tony Iommi, le guitariste de Black Sabbath, il a eu un accident avec une presse hydraulique. Voilà, donc ça, je vous dis, ça c'est comme ça. Ouais, mais je vous le dis, si vous y connaissez rien, on dit que nous, il fallait pas venir, on vous le dit en direct.
Si, on vient de bien répondre.
Et pour cette raison, il va
grâce à toi, tu lui as fait une passe décisive quand même.
J'ai fait une passe décisive, mais je sais pas comment ça sera arbitré après, ça. Mais...
Bah, je vais mettre un point à chacun, parce que quand même,
c'est comme
une paillée, c'était quand même une très très bonne réponse. Effectivement, il a perdu des doigts. Tout le monde a tous ses doigts autour de la table?
Oui.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je fais des checkpoints un peu au niveau des doigts. Voilà, histoire. Très très bien. Eh bien écoutez, c'est une bonne réponse de Manu Payet et de Quentin Lui. On écoute tout de suite la troisième question.
Et toi et moi, quelque part en Italie, une rengaine. Je t'aime, io tu e le rose.
Qu'est-ce qui se passe, me demandait Joey Star, qui se dit, attends, je suis vraiment venu dans l'émission, je me suis levé tôt pour venir gagner une flûte. Et en plus, on écoute les compagnons de la chanson.
Ouais,
c'est les compagnons.
Ça,
tout s'explique.
D'accord.
Et on imagine toutes les affinités entre les compagnons de la chanson et Joey Star et tous les gens autour de cette
table. C'est-on jamais.
Donc, cette chanson,
pour une raison anatomique d'ailleurs.
J'étais fan de la confiture quand j'étais petit. C'était pas les compagnons de la chanson, c'était les frères Jacques, je crois.
Ah oui, ok, parce que j'étais là, la confiture.
Ils étaient en legging.
Ouais, c'est vrai.
Avec un chapeau melon. Voilà, c'est le seul truc que je dirais aujourd'hui.
Alors voilà, en tout cas, si c'est pour continuer à parler des compagnons de la chanson, je comprends qu'on n'ait plus rien à dire. On écoute une chanson qui s'appelle Toi, moi et la rose, avec laquelle les compagnons de la chanson, ils ont remporté un festival de musique en Italie, festival de San Remo en 1967. Et en terminant en finale avec cette chanson, les compagnons de la chanson, ils allaient être indirectement responsables d'un suicide.
Ah.
Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé pour que les compagnons de la chanson soient responsables d'un suicide ?
Le jury s'est suicidé ?
Le jury s'est pas suicidé.
Ça n'a pas de rapport avec ça. C'est
pas un membre du jury.
C'est pas un membre du jury qui s'est suicidé.
C'est à cause d'un plagiat.
C'est pas à cause d'un plagiat non plus. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Donc ils ont remporté le festival avec cette chanson.
Et suite à ça, il y a quelqu'un qui s'est suicidé.
Un concurrent.
Donc, un autre concurrent.
Un autre concurrent, exactement.
Connu ?
Assez connue.
Sœur Sourire.
Alors après, non, c'est pas Sœur Sourire. Elle s'est suicidée.
Elle s'est suicidée, Sœur Sourire.
Ah ouais, mais pas à San Remo en 1967.
Peut-être
Mike Brandt,
en faisant la guerre.
Non, c'est pas Mike Brandt.
Parce que Mike Brandt, j'ai appris qu'il a essayé de se défenestrer plusieurs fois.
Oui, oui. C'est la deuxième
fois au festival de San Remo. Dès qu'il n'est pas content, Mike Brandt, il ouvre la fenêtre, il saute. Ça, c'est vraiment un truc, c'est la base.
Je veux pas Mike Brandt, ok.
Alors, mais c'était quand même effectivement un autre concurrent. Il s'agit du compagnon de Dalida, Luigi Tenco.
Ah, bah oui. J'avais failli dire Dalida, oui.
Alors, Dalida s'est suicidée des années plus tard.
Ouais.
Mais en fait, Dalida, elle avait dit à son mec, ouais, il faut que tu participes absolument avec ta chanson et tout. Et Luigi Tenco, il est allé chanter sa chanson, mais ça n'a pas marché. Il a fini 12e. Et figurez-vous que, hyper vexé, il est remonté dans sa chambre et il a laissé une note en disant, moi, je voulais clubber en public italien, je lui ai consacré inutilement 5 ans de ma vie. Et donc, je fais ça non pas parce que je suis fatigué de la vie, pas du tout, mais comme un acte de protestation contre un public qui envoie ma chanson, qui envoie la chanson des compagnons de la chanson en finale et qui sélectionne une autre chanson et dit, j'espère que ça vous ouvrira les yeux. Et puis, mais c'est suicidé.
C'est vachement long pour une histoire courte. En fait.
C'est quand même.
Il y a une heure à faire. Donc, il y a une heure à faire. Donc,
Mais parce qu'on me paraît quand même un mec quand même assez mauvais joueur.
Très sensible.
À partir du moment où je te suicide, avec le mec assez impulsif, je pensais pas tricher au Monopoly contre lui, vraiment. Luigi Tenco. Voilà, donc bonne réponse. Bonne réponse de qui d'ailleurs? Bonne réponse de Manu Payet. Hein,
non, c'est.
D'un autre concurrent, non, je pense que c'est vraiment.
Bah, moi j'ai dit un autre concurrent. Ah,
oui, c'est un autre concurrent. Donc c'est une bonne réponse. Exactement, d'Anna Godefroy.
Moi je veux pas de points, moi.
Ok,
on a compris. De toute façon, on est obligé de tout lui donner après, à la fin. Alors, à chaque fois, c'est comme ça.
Après, moi je donne ma flûte à Joe Star, de toute façon. Bonne réponse donc de Anna Godefroy, c'est parce que, effectivement, il y a un autre concurrent qui était vraiment dans un maximum de sommes. Un point pour tout le monde. Un point pour tout le monde, sauf pour Joe Star, présentement, qui a décidé de pas jouer aujourd'hui. Je rappelle mes invités, donc évidemment, Manu Payet, Joe Star, Quentin Lui, Anne de Petrini et Anna Godefroy. On écoute tout de suite la question suivante. Alors, donc on entend le morceau de Madonna qui s'appelle Music, qui a été produit par le français Mirwes il y a une vingtaine d'années. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi dans la Sarthe, alors déjà on n'attendait pas ce début de phrase comme ça,
c'est bien, c'est bien.
Alors dans la Sarthe, il y a un village qui s'appelle Saint-Côme-en-Véret, et ce village de Saint-Côme-en-Véret, il attend depuis des années, de pied ferme, la venue de Madonna. Est-ce que vous avez une raison? Vous savez pourquoi?
Il y a des descendants peut-être?
Exactement, bonne réponse de Quentin Lui.
J'ai bossé à France Bleu, ça aide ce genre de truc.
Ah bah ça, c'est
les petites anecdotes de village, tu vois.
Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu l'anecdote Quentin Lui, donc autour de Madonna? Qu'est-ce qui se passe exactement?
Visiblement, il y aurait des descendants, il n'y a pas un truc avec le Québec?
Exactement, c'est un village dans lequel il y a des racines généalogiques québécoises, et donc comme le dit le maire de Saint-Côme-en-Véret, il dit apparemment il y aura des racines, Madonna elle a des racines dans la Sarthe, et on sera bien content qu'elle vienne et qu'elle nous apporte 250 emplois. Voilà, ça c'est une phrase du maire de Saint-Côme-en-Véret.
Saint-Côme, pardon, comme 5 hommes?
Non, Saint-Côme, comme C-O-S-M-E. C'est vrai que quand on est dans la Sarthe, on peut épeler les noms de villes.
Non, mais c'est pour ça que je fais la question.
C'est vrai qu'on est. C'est la première fois que je suis dans une émission avec Joe Star où j'épelle des noms de villes de la Sarthe. Ça, c'est un truc.
J'ai eu envie de simuler un AVC, là, je te jure.
On a entendu soupirer de Joe Star et tout ça est compréhensible. Vraiment, c'est un test de patience pour Joe Star, cette émission sur la flûte.
J'ai bien fait d'arriver en avance.
Flûte et Sarthe, c'est un programme entièrement pour vous, Joe Star. On va écouter le témoignage d'une dame qui pense que Madonna, c'est sa cousine.
Bon, disons que dans la rue, je suis allée faire des courses ce matin. Ça jase, quoi. On me regarde. Jusqu'à maintenant, si, on m'en a parlé. On a vu les articles dans le journal. On m'a dit, mais Madonna, c'est ta cousine. Alors, j'ai dit, pour l'instant, on ne sait pas encore.
On ne sait pas encore.
Tout ça pour ça.
Et tout ça, en plus, après, pour une flûte, juste. Ouais. Mais donc Madonna, peut-être originaire de Saint-Côme-en-Véret. Ça, c'est vraiment quelque chose, si on ne pouvait pas le savoir, on ne pouvait pas l'inventer. C'est Quentin Lui, donc, qui nous a donné la bonne réponse. Et est-ce que vous avez des gens célèbres dans votre généalogie? Moi, j'ai remarqué l'année dernière, j'ai découvert, c'était pas un truc qui m'a réjoui parce que moi, je suis le cousin de Laurent Wauquiez.
Non, ça c'est chouette.
Et là, ça m'a projeté dans un univers de diarrhée immédiate.
Ouais, c'est intéressant.
Ça c'est sympa.
Mais c'est mon cousin,
si c'est
mais
pas
même
toi
pas
de gagner
si...
la flûte,
même pas, même pas si éloigné, même pas si éloigné. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de cousins du côté de mon père. Et en fait, ma grand-mère paternelle, c'est la sœur de la grand-mère de Laurent Wauquiez. Donc c'est pas loin du tout.
Mais vous êtes pas croisés.
La grand-mère.
Vous n'êtes pas croisé en mariage?
Non, mais j'ai joué au Puy-en-Velay, il m'avait laissé une bouteille de chartreuse dans la loge et tout.
Salut cousin.
Ah ouais, salut cousin. Salut cousin.
Non, moi on me prend souvent pour Henri Salvador, c'est tout.
Ah c'est Eh ben voilà, bonne réponse en tout cas de Quentin Lui. On écoute tout de suite la question suivante.
Oh.
de musique classique et de moustiques.
On sait avec quelle partie de son corps il fait ça, le mec.
Alors, bah justement, c'est la question que je vous pose. Alors, je rappelle qu'on est dans l'émission de flûte.
Je dirais les aisselles.
Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on entend rarement, des mecs qui font de la musique avec les aisselles.
Son nombril.
C'est dommage.
Avec le nombril aussi, on peut faire.
Je non, c'est vrai.
Quel est le nom, tout simplement? Alors, on est en train d'écouter le Boléro de Ravel.
Pas... Tu crois
Je crois.
Tu crois que c'est ça
C'est pas celui de Ravel.
C'est quoi le nom de l'instrument avant utilisé par ce duo qui interprète le Boléro de Ravel qu'on est en train d'écouter? Quentin, lui.
Corps de chasse?
C'est pas le corps de chasse.
Corps de muse.
C'est pas la cornemuse.
Le corps tout court.
Ça ne commence pas par corps, forcément.
Faut tout commencer par corps. Le groupe Les Corps.
C'est pas le casou. C'est pas les corps.
C'est un instrument avant.
Qui a été extrêmement populaire il y a une dizaine d'années. Extrêmement populaire.
Extrêmement populaire.
Grâce à.
Je vais pas vous dire tout de suite grâce à quoi,
d'accord,
sinon vous
allez
tout de suite trouver. C'est pas
le nounours.
C'est pas le nounours.
Un saxophone.
C'est pas la clarinette. Clarinette, tout ça, ça marche pas.
C'est pas la clarinette.
Un instrument avant, qui est répandu encore aujourd'hui ou qui a disparu suite à son essor.
Il a saoulé beaucoup de gens suite à son essor.
Le vous-vous-est-là.
Bonne réponse de Quentin, lui. Effectivement, c'était la Coupe du Monde de 2010. Et on se souvient, ça c'était vraiment excellent. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, Joe Star, vous nous disiez que votre fils a été accueilli en équipe de France de football récemment.
Ouais.
Et donc, ça a été des concerts de vous-vous-est-là n'ont plus fini.
on
imagine
qu'on bat chez lui.
Bonne réponse de Quentin, lui. Effectivement, le vous-vous-est-là. Vous êtes là. J'avais noté une blague, mais je savais pas comment dire. C'est vous êtes là. Mais vraiment de France Gall. Mais ça, c'est ce que je veux parce que je peux la couper au montage. Ça, c'est vraiment l'avantage.
C'est
l'avantage de pouvoir couper cette émission après. Je propose d'écouter le premier morceau de l'émission, mais en entier cette fois-ci. C'est extrait de la playlist de France Inter. C'est Aurel San avec les Neptunes pour le morceau Dernier Verre.
Elle m'a dit juste un dernier verre. Juste un dernier. Elle m'a dit juste un dernier verre. Juste un dernier. Il est déjà minuit. Je vois mieux de m'en aller. Je connais ce moment par cœur. Où tout peut basculer. Je connais déjà la suite. Dans deux verres, il est 5 heures. Et je dirais juste un dernier. She says it's been a minute since her friends are hurt, been outside. And maybe when it, then it makes sense what they talk about, right? Sinon qu'est-ce que je peux faire à 3h du matin avec une bonne meuf? À part peut-être niquer ma vie et celle de la fille que j'aime en lui brisant le cœur. L'ado que j'étais me dit fais-le pour moi. L'homme de maintenant répond qu'est-ce que je fous là? Juste un dernier verre et je m'en vais. Laissons le passer passer.
Elle m'a dit dans 2 minutes j'attendrai devant la salle. Ce genre de problème dont j'ai jamais besoin dans ma life. Et je me dis juste un dernier verre, ça peut pas faire de mal.
Elle m'a dit juste un verre et je sais pas dire non. Je l'appelle par son instinct, je connais pas son vrai nom. Mais je sais qu'il est tard et je veux mieux d'être à la maison. Faudrait mieux s'en aller. Juste
un verre. They wanna go in.
Tonight ain't fair, they wanna go in.
terre. Qui veut gagner la flûte à bec ? Thomas VDB.
Toujours avec mes invités pour remporter une unique flûte. Je suis navré de vous rappeler qu'il n'y a qu'une seule flûte à gagner. Tout le monde ne pourra pas repartir avec la sienne. Et avec mes invités, Anna Godefroy. Anna.
C'est pas grave.
Quant à lui, Anne de Petrini, Joe Star et Manu Payet. Manu Payet, vous serez à l'Olympia tout bientôt avec votre nouveau spectacle.
Ah oui, tout à fait. C'est le 9 décembre.
Vous aviez oublié
ah oui.
le 9 décembre.
Ouais, non, j'avais envie de dire des conneries, moi. J'ai... Donc, mais là, c'est sérieux.
C'est l'occasion sérieux. Quand même.
J'ai pas pensé à faire de la promo de moi-même. Bah, c'est le 9 décembre.
Le 9 décembre, merci, le spectacle s'appelle Emmanuel 2.
Oui, tout à fait. Merci voilà. beaucoup. Dans ça y est, je peux dire une connerie.
On est tout à l'écoute. Il a bien envoyé, nous a bien niqué. Je vous propose tout de suite d'écouter le morceau pour la question suivante.
Ça me donne envie de me battre.
Ah ouais,
ou de me faire battre.
De se barrer, de se faire battre. En tout cas, Joe Star n'en pleut plus. Je crois qu'il a lancé un compte à rebours dans sa tête pour jusqu'à la fin de cette émission. Ah le morceau, est-ce que vous savez de qui est le morceau qu'on
entend
non. écouter
absolument pas.
Non, je m'en fous. C'est un morceau de Neil Young qu'on écoute.
Okay. Ah, moi je croyais que c'était le dauphin qui chantait.
C'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est vrai qu'on dirait un peu une musique de truc avec un dessin animé. Ouais.
On l'appelle le dauphin.
C'est vrai qu'il y a un truc un peu plus galac. C'est un morceau de Neil Young, et donc c'est un morceau qui se démarque vraiment beaucoup dans la discographie de Neil Young, parce que Neil Young, c'est plutôt un mec qui joue de la musique au coin du feu.
Interprété par
mais
Neil
oui,
Young.
C'est ça, ou c'est
interprété par Neil Young.
Qu'est-ce qu'il avait ce jour-là?
Bah oui.
Alors, ben, c'est justement la question. Donc, Neil Young, on le connaît pour vraiment ses chemises de
la bûcheron. La folk, quoi. Ouais.
La folk. Et donc il a fait cet album qui se démarque le plus dans sa discographie, qui s'appelle Trans, et donc le morceau qu'on écoute s'appelle Transformer Man. Et donc est-ce que il a fait cet album, c'est vrai que c'est vraiment sur un super avec des sonorités robotiques et tout. Est-ce que vous pouvez me dire la raison pour laquelle Neil Young il a pris ce virage soudainement électronique au milieu de sa carrière?
Parce qu'il a aimé Watu Watu.
Alors il a probablement, il y avait une base d'admiration de Watu Watu. C'est vrai que c'est un peu chapeau. Des mots qui se répètent. On est vraiment plouf plouf.
Ouais. C'est une rencontre, c'est une rencontre.
C'est une sorte de rencontre.
J'ai gagné.
Non, c'est pas. Non, je ne pas dire Watu Watu.
Non, mais il mérite un point pour avoir dit Watu Watu.
Bah ouais, c'est vrai que c'était un prétexte que je cherchais depuis le début de l'émission. Alors non, pour quelle raison est-ce qu'il a fait ce... Il l'a dit plus tard, longtemps après l'échec de cet album, il a fini par donner la raison de ce virage électronique.
C'est un film.
Dans sa carrière,
c'est pas. Non,
c'est une sorte d'excuse effectivement, en disant non, mais c'est parce que je voulais faire ça en fait.
Il a voulu copier Jean-Michel Jarre. Il y a pas de lien avec Jarre, Jean-Michel Jarre.
Non, il y a pas de lien avec Jean-Michel Jarre.
Il a fait l'album pour quelqu'un.
Pour quelqu'un, exactement.
Ah. Ouais, bravo.
Il a fait l'album pour quelqu'un.
Quelqu'un qui était dans
son ex-femme, sans doute, non?
C'est pas son ex-femme, non.
Une star?
C'est pas une star, non, pas
Sim.
C'est pas.
C'est quelqu'un de
C'était un album pour Sim. Bonne réponse de Joe Star. On sait pas que Neil Young était fan de Sim. Il avait lu la bio Qu'est-ce qu'elle a ma gueule de Sim. Que je me souviens dans la bibliothèque où j'allais quand j'étais petit, il y avait toujours la bio de Sim.
Oui.
Il y a écrit sa tête de Sim, il y a écrit Qu'est-ce qu'elle a ma gueule.
Bon, alors c'était
pas. Ça ouais, c'était vraiment.
C'était non, pas où est ma chemise grise.
Ah non, alors c'était pas la vraie bonne réponse. C'était pas pour Sim que Neil Young.
C'était pour une femme. Pour une femme, ouais.
Non, c'est pas pour une.
Quelqu'un de sa famille.
Quelqu'un de sa famille.
Son père.
Non.
Sa mère.
Non.
C'est son frère.
Non.
Son fils.
Sa cousine.
Son fils. Mais pour quelle raison est-ce qu'il a réussi?
Pour l'endormir.
Ouais, vas-y, c'est
pas très loin, je crois que Joe Star
pour le
faire par-dessus la tête.
Pour le
bercer,
pour le jouer, faire rire.
Pour le réveiller, ouais.
Alors pourquoi, je vais vous dire exactement, il a voulu faire cet album pour entrer en communication avec son fils qui était atteint d'infirmité motrice cérébrale.
On n'aurait pas trouvé ça.
Je pense qu'il espérait que son fils lui dise un truc genre papa, tu me casses les couilles avec ta musique, tout là vraiment. Je pense et voilà. Mais encore une fois, je vous le dis, si vous n'êtes pas calé en Zikmu, c'était pas la peine de dire cette émission. Voilà, donc c'est une bonne réponse, on va dire quand même, de Quentin Luis, parce que c'était quand même pour son fils, exactement.
C'était quand même une passe décisive.
On peut revenir sur le phénomène des passes décisives.
Ça sent un peu le seum quand même autour de la table là.
Non, mais
je suis disant, elle a, c'est quand même.
Merci, Anne.
Ouais, vraiment. Merci.
Non, mais moi, j'étais en train de aussi également militer pour oui, toi, parce... ouais. Pour dire que tu venais d'effectuer toi aussi une passe décisive.
Oui.
Comme,
et c'est vrai.
Par voilà, exemple,
de sonner en fait... délégué de classe. en rappelant le fait que juste avant l'interruption musicale, eh bien, j'ai moi-même effectué une passe décisive.
C'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que c'est frustrant dans cette émission. C'est très frustrant pour beaucoup de candidats dans cette émission de se dire qu'ils sont quasiment à deux doigts de la réponse et puis c'est quelqu'un d'autre qui la donne. Surtout quand tu te rappelles qu'il y a une flûte à gagner.
Ah bon,
et tu dis,
bah,
je
veux
pas
moi, je la veux, ma flûte.
Joël Star. Joël Star, vraiment, pas de flûte pour vous. Hein pas de points pour vous. Vraiment, j'ai une colonne complètement vide sous Joël Star. On écoute tout de suite la question suivante.
Flunchy, bras levés, Flunchy, bras en l'air. Flunchy fait tourner tous les flunchers de la terre. Flunchy pour danser, Flunchy sait le faire. Flunchy est expert pour distraire toute la terre. Flunchy, lélélé.
Alors,
c'était Didier Morville, juste avant de devenir Joël Star. C'était la 7.
La 7 de l'album de Didier Morville.
Ils l'ont fusillé en 39, le mec.
Ça, c'est une chanson qui a été éditée. Il faut savoir qu'il y a des employés d'un Flunch qui ont enregistré eux-mêmes un lip-dub par passion pour leur entreprise. Et donc, ils ont fait une vidéo. C'est le Flunch de Périgueux. Donc, vous tapez Flunch Périgueux. Je sais pas si c'est un truc que vous tapez souvent dans Google.
Oui, je la connais, celle-là.
Et donc, on voit tout le personnel du Flunch de Périgueux faire la queue leu-leu dans la galerie commerciale. Et vraiment, ben, ça vous met de bonne humeur. Ça, c'est vraiment un truc que je vous recommande particulièrement. Je rappelle que chez Flunch, les légumes sont à volonté. On est vraiment dans la. Alors, donc, là, c'est pas la chanson la plus connue de Flunch.
Qu'est-ce qu'on fait là?
Eh ben, on est là pour répondre à la question. Pouvez-vous me dire qui est le chanteur français dont un des hits a été utilisé pour la vraie musique de la pub Flunch, la vraie musique de la
Tranquille
pub
Vincent.
Flunch.
Et ben non,
ah, ça faisait quoi? On va Fluncher. Gilbert Montagnier,
évidemment.
Alors, pas le mot.
Les yeux quoi.
Anne de Pétrini se cachait les yeux en disant mais je l'ai. C'était effectivement.
Non, tu faisais plutôt le geste du clignotant.
Oui.
C'est vrai.
C'est pas terrible. Il a chanté On va Fluncher sur le rythme de On va s'aimer.
Exactement. Alors je sais pas si c'est lui qui a chanté On va Fluncher.
On va Fluncher.
On peut quand même se l'écouter. On va Fluncher.
On va Fluncher.
Et une larme. Mignon de te voir pleurer.
Petite larme, effectivement, la gougoute à l'œil en écoutant On va Fluncher. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Aussi, c'est vrai qu'il y a une autre chanson qui a été bien massacrée, c'est Sex Bomb, qui est devenue une chanson sur Bigard, le steak haché, les steaks hachés Bigard. Ouais, ils ont fait un truc comme ça. Ils ont utilisé Tom Jones pour parler de steak haché. Vous avez des Flunchers, vous, dans votre famille? Des gens qui aiment bien.
Mes grands-parents à l'ancienne, ouais.
Les grands-parents d'Anna Godefroy.
Ouais, mais ils sont décédés, donc. Forcément d'anecdotes, quoi.
Écoutez, on pense à eux. Ça s'explique peut-être. Donc on oublie d'aller chez Flunch. On passe tout de suite à la question suivante.
Et j'ai un point ou quoi ?
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. Escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see.
Alors, Bohemian Rhapsody, dans une version assez méconnue, chantée, donc Bohemian Rhapsody, c'est le tube de Queen de 1975, on l'entend dans une version chantée par Paul McCartney. Pouvez-vous me dire la raison pour laquelle cette version de Bohemian Rhapsody a été si peu entendue ces 40 dernières années, puisque la chanson a un petit peu plus de 40 ans maintenant?
Parce qu'elle vient d'être retrouvée, la piste.
Elle ne vient pas d'être retrouvée.
Ils n'avaient pas les droits?
C'est pas une question de droit.
C'est pas une question de droit.
C'est pas à cause d'un bâillement.
Paul McCartney l'avait gardé.
Paul McCartney ne l'avait pas gardé. Non.
C'était pas lié au doc Get Back là.
Non.
Mais enfin.
Alors, est-ce qu'on peut réécouter juste un tout petit
alors,
peu?
Alors, est-ce qu'on peut réécouter un petit peu?
Sympa. Il se moquait pas de lui, c'était pas pour se moquer de lui, non?
Non, c'était pas pour se moquer. Donc je refais la question, est-ce que vous pouvez me dire...
Parce que c'est de la merde, non?
Alors, ça c'est l'avis de Joe Star. Il dit ça à moi, que je suis un fan de Queen.
Non, mais est merdique, je dis l'interprétation.
Alors...
Mais c'est mal enregistré, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est mal enregistré.
Alors, on se rapproche, pourquoi? Pourquoi ce morceau a été si peu entendu, voire jamais entendu?
Parce qu'il était ivre quand il l'a chanté.
Il n'était pas ivre quand il l'a chanté.
C'était pas en studio.
C'était pas en studio. Ça, c'est sûr, c'était pas en studio.
C'était pas sur le toit d'Abbey Road?
Non.
T'es dans un endroit particulier.
Dans les toilettes.
C'était pas dans
les
toilettes.
Dans sa
baignoire. Non.
Il chantait dans le nounours de quelqu'un.
Non.
Chez ah.
Alors.
Chez.
Il y a un truc avec l'enregistrement ou pas?
Oui, il y a un truc avec l'enregistrement, avec la production de ce morceau.
Mais rien, ils ont enregistré avec une casserole, quoi, avec un truc à cassette, quoi.
Non.
Un répondeur.
Non.
Un téléphone.
Non.
Ça peut prendre la journée là, non?
Alors, ça peut prendre la journée. Je crois que je voulais dire la réponse tout simplement parce que ce morceau a été créé en 2023 par une intelligence artificielle.
Ah, mais oui.
Et je m'étonne que tout le monde se soit pas dit, mais Paul McCartney n'a jamais enregistré Bohemian Rhapsody.
C'est de la merde. Donc
c'est la raison pour laquelle je disais, je vais star, vous êtes pas loin de la vérité, exactement. C'est de la merde. Je sais pas si vous avez déjà commencé à utiliser un peu les intelligences artificielles.
Ah non, pourquoi il faut pas en avoir peur, quoi.
Moi, je suis pas là, personnellement. Ça, c'est pas moi.
Ah ouais?
Là, c'est pas mal.
Ils utilisent vachement les intelligences artificielles. Moi, je suis pas là.
Là, je suis au pieu.
Là, ouais, je suis chez moi. Mais à la réunion. Je suis à la réunion.
C'est bien.
Et là, et même, je vais vous dire mieux, fou, ce que je dirais fou, mais je suis en train de nous écouter.
Manu Payet, qu'on embrasse, il est en train de nous écouter depuis son
lit
à la réunion.
Salut moi.
Et on remercie la PLV de Manu Payet qui est là, présente en carton dans le bureau avec nous. Je rappelle les scores, grosso modo. Bah, je saupoudre un petit peu de points partout. Je crois que c'est Quentin lui qui est en train de mener le score.
Mais pourquoi il n'est pas venu tout seul? Je comprends
mais
pas.
C'est, clair.
C'est vrai.
En fait, il couché, quoi.
C'est vrai que très très attaché à l'idée de vouloir gagner. Ouais. Je rappelle que vous êtes sur France Inter dans Qui veut gagner la flûte à bec. Et donc c'est Quentin lui qui est en train de mener la danse, on écoute tout de suite le morceau pour la question suivante. Alors donc c'est Born to Run, le morceau de Bruce Springsteen sorti en 75 sur l'album du même nom. Bruce Springsteen d'ailleurs qui a joué tout récemment à Paris, je sais pas s'il y a des gens qui sont allés voir Bruce Springsteen.
La Défense Arena, ouais.
Ouais. Non, je n'y suis pas allé non plus.
Moi, je disais, m'y était.
Ah ben voilà.
Des petites news comme ça aussi, on en aura beaucoup dans les.
Alors, je vais faire comme si j'avais pas entendu la question qui vient d'être, la remarque qui vient d'être faite par Manu Payet.
Un point pour Manu.
Alors, Roche Dizem.
Est-ce que non, non, fais comme si tu n'avais pas dit Roche Dizem. Alors ça effectivement. Alors donc, il y a beaucoup de fans de
Roche Dizem.
Dans la salle.
Il y a énormément de il y en a plein, des gens très connus qui sont fans de Bruce Springsteen, il y a Antoine Decaune et tout. Mais pouvez-vous me dire le nom de cet acteur français archi fan de Bruce Springsteen au point de l'avoir vu 88 fois en concert? Manu Payet.
Roche Dizem.
Roche Dizem, c'est une bonne réponse.
Bravo.
Alors,
cette spontanéité, c'est fou ça.
Je sais pas. Depuis quand tu sais, Manu, que Roche Dizem est fan de Bruce Springsteen?
Et il en parle tout le temps.
Alors, mais moi, je connais pas Roche Dizem.
Ah bah oui, mais moi, je l'ai vu une fois. Il parlait que de Bruce Springsteen.
Ah ouais, d'accord. Non, c'est pas une blague. Une fois, il en parlait.
Moi, j'étais là, j'étais au restaurant comme ça, un peu déconné et tout. Et moi, en vrai, pas moi via l'intelligence artificielle. Donc, je suis là, en vrai, tout ça. J'avais pris des pâtes. Et Roche Dizem était à côté et tout. Et j'ai dit bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites et tout. Il me dit Bruce Springsteen. Vous. Moi, j'aime vous. Il me redit Bruce Springsteen. Et je suis parti. J'ai eu peur. J'ai flippé. Le gars est vraiment en blocage sur.
Mais
sur
ça, 88 fois en concert.
Non, je sais. En fait, je le connais un petit peu.
C'est Bruce Springsteen.
Ouais. Et Bruce Springsteen me dit qu'est-ce qui me saoule. Mais comme il est costaud, j'ai peur de lui. Non, j'arrête.
Mais
Roche dit est vraiment très très fan de Bruce Springsteen. Mais ça en est même. Et là, je suis très sérieux. Ça en est
même
touchant.
On peut y
aller ou pas? Ça en est même touchant. Ça en est même touchant.
Ah bah ouais, regarde, on va écouter un extrait de Bruce Springsteen en interview qui de Roche Dizem. On va écouter l'interview de Bruce Springsteen qui dit qu'il a plein les couilles de Roche Dizem dans ses concerts. Alors non, on écoute tout de suite justement Roche Dizem qui nous parle de sa passion.
C'est très difficile à expliquer parce que moi, ma rencontre avec Springsteen, je devais avoir 13-14 ans.
Ah, c'est l'âge.
Et 40 ans plus tard. On aime le même artiste et de la même façon, avec la même vigueur. C'est assez rare. Et tous les fans de Springsteen à travers le monde, parce que j'en ai rencontré beaucoup, il y a à peu près cette même approche de sa musique et de la façon d'aimer l'artiste.
Est-ce que vous êtes fan? Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont fans ou
Pardon
qui ont été fans? Est-ce
que vous avez
été
fan? T'es sûr que tu vas aller jusqu'au bout là sur cette question?
Est-ce que Joël Star, par exemple, est-ce que vous avez été fan d'un artiste? J'ai du mal à imaginer
oui.
À la sortie d'un concert.
Si, voilà. Oui, comme tout le monde, quoi.
Bien sûr. Mais genre le autographe, par exemple. Vous avez déjà demandé un autographe à quelqu'un?
Non. Non.
Parce qu'on imagine Roche Dizem 88 fois en concert, qu'au moins une fois il s'est retrouvé à la sortie du Zénith.
Ouais.
Bruce oui. Il a demandé son autographe. Vous, Manu Payet, vous avez déjà fait genre
une... Ouais, moi j'adore aimer.
Ouais.
Alors, wow. Du coup, moi j'aime beaucoup les Pixies.
Ouais.
Voilà, donc j'ai vu aussi pas mal de fois en concert, tout ça, j'aime beaucoup. Et puis non, qu'est-ce que j'aime bien d'autre, moi, je sais pas, dites chacun vous.
Moi j'ai un autographe d'Emma Watson.
Ah, pas mal.
Harry Potter, okay. Je suis très très fan, enfin surtout avant, mais voilà.
Quand un peu vénère sur maintenant.
Et ça va mieux
Oui, ça va mieux, mais j'assume pas trop, parce que j'ai 25 ans, quoi.
Oh, bah Emma Watson est toujours super.
J'adore Emma Watson, elle est super.
Moi, quand j'étais petit, j'ai demandé un autographe à Jean-Luc Lahaye. Mais il me l'avait signé, mais je l'avais vu dans un stock car. Donc je m'étais dit, attends, il y a Jean-Luc Lahaye, là je vais demander un autographe.
Ça fait beaucoup.
Et je me souviens, il était sur un ballot de paille, il y a plein de photographes de PQR locaux qui étaient là, Jean-Luc. Et lui, il faisait des coucous aux photographes.
Vous voulez une anecdote vraie, Thomas?
Ouais, ouais.
J'ai demandé un autographe, alors la seule fois où je l'ai fait, c'est à Robert De Niro. J'ai rencontré Robert De Niro il y a début 2000, et donc j'arrive tout tremblant et je lui donne une photo de lui. Qui était dans un dossier de presse du film Mafia Blues. Et je lui donne. Alors, non, d'abord, je donne à Billy Crystal, qui signe très gentiment. Et puis, il dit demandez-la à Robert. J'ai dit, non, mais j'ai peur. Il me dit, si, demandez-la. Mais en fait, je me rends compte qu'il faisait ça pour énerver un peu Robert. Et donc, je donne à Robert. Robert dit. Il grogne un peu. Il se rassied bien correctement sur le canapé. Et je lui donne le stylo. Et le stylo ne marche pas.
Ah, c'est vrai.
Et donc, il essaye. Et ça commence à l'énerver. Et donc, sur l'autographe, il y a toujours la trace du gars qui essaye tout ça. Et il veut. Vraiment signé, non pas pour me faire plaisir, mais pour faire marcher le stylo. Parce qu'il se dit, je suis quand même De Niro. Et donc, il gratte. Et j'ai dit, non, mais c'était pas grave, laisse tomber. Il me l'enfonçait dans l'œil. Et j'ai dit, non, mais c'est pas grave, laisse tomber, monsieur De Niro, il n'y a vraiment aucun souci. Déjà, il y a la marque de vous qui insistait et tout, machin. Et là, c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait passer sous sa pompe.
Ah ouais.
Oui. Comme un tonton.
Enfin, machin,
à l'ancienne, ouais.
Ouais. Ouais. Même Robert De Niro fait ça.
Mais ça marche.
Et ça a fonctionné.
Wow. Eh oui.
C'est une belle anecdote.
C'est vachement long pour une histoire courte. Je trouve que c'est vachement long pour une histoire courte.
Non, parce que j'ai une question.
Ça a fonctionné.
Tu as toujours une photo de Robert De Niro sur toi? Parce que tu.
Ouais,
c'est ça qui m'étonne, effectivement.
C'est ce qui m'intéresse.
J'ai toujours le dossier de presse de Mafia Blanche.
Il est dans mon slip.
Non, c'est un caleçon.
C'était une bonne réponse. Bah déjà, c'était même pas une bonne question parce que la réponse a été donnée avant que la question soit posée.
Et ça, c'est fort, ça vaut 2 points.
Bonne réponse de Manu Payet. Effectivement, ça vaut 2 points pour Manu Payet. Je propose qu'on écoute tout de suite le deuxième morceau en entier de cette émission.
Encore.
Extrait de la playlist. Ouais, ouais, c'est le dernier morceau. Hein, je vous jure, après c'est terminé. Voici Royce in Murphy avec The Universe. C'est extrait de la playlist France Inter.
Inter.
veux gagner la flûte à bec? Thomas Vidébé.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège en.
Est-ce que vous reconnaissez ce chanteur qu'on est en train d'écouter? C'est Georges Moustaki, exactement, qui fait une reprise de Tom Jobim, l'exceptionnel compositeur brésilien de ce morceau qui s'appelle Agua de Marcos. Marcos ou Marsos, je ne sais pas. Et Marsos. Donc Moustaki. Marsos. Georges Moustaki avec Pierre Barou, c'est un des grands popularisateurs de la musique brésilienne en France. Et pouvez-vous me dire. Attention, et là, si vous y connaissez rien en Zikmu, je vous rappelle, il fallait pas venir. Quelle était la deuxième grande passion de Georges Moustaki?
La pétanque.
Dans la vie. C'est pas la pétanque.
C'est un sport.
C'est un sport.
C'est Molky?
La vaisselle de poche.
C'est pas la vaisselle de
le
poche.
Le baseball.
C'est pas le baseball.
Le tennis?
C'est pas le tennis.
Le basket.
C'est pas. Oh, putain, c'est vraiment assez facile. Passer... Non, alors.
Tous les sports.
Attends.
Même si c'est la sixième que vous faites, vous avez l'air vous-même déconcerté par
votre
propre
question. C'est un sport collectif,
tout à fait. Vous avez pas dit tous les sports.
C'est vrai, mais c'est vrai que je
demandais un sport.
Ouais, ouais.
C'est un sport collectif.
C'est pas un sport collectif.
Il y a une balle.
Il y a une balle.
Il y a une balle.
Le ping-pong.
C'est le ping-pong, évidemment! Eh ben voilà, je sais pas si vous deviendrez des meilleures personnes en écoutant cette émission, mais vous deviendrez des gens qui savent que la deuxième passion de Georges Moustaki dans la vie, c'était le ping-pong.
Ah ben ça, dans un après la moustache.
Exactement.
On dit pas tennis de table?
Non, je crois qu'on dit ping-pong. Parce que je connais des mecs qui sont des gars de l'équipe de France de ping-pong.
Ah ouais.
Et ils disent, non, on dit ping-pong. En fait, tennis de table, c'est pour vraiment, c'est les vieux qui disent ça.
Okay.
Voilà, on dit ping-pong.
C'est la première fois qu'il a levé un peu le ton. Depuis le début de l'émission.
Vraiment, si vous me croyez pas, tapez Moustaki ping-pong dans Google. Et vraiment, il y a énormément de réponses. Il y a des images de Moustaki qui joue avec Eddie Barclay. Il a battu Eddie Barclay.
Et ça,
et là,
je vais le faire quand même.
Voilà. Donc,
ouais.
Pareil, c'était.
Et pareil,
il paraît qu'il joue ping-pong tous les soirs.
Tous les soirs,
Georges Moustaki, ouais.
Waouh.
C'est ça. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir votre avis sur cette information, Anne de Petrini?
Tous les soirs, vers quelle heure?
Alors, apparemment, je sais pas. C'était vraiment avant d'aller dormir.
Entre chien et loup.
Et vous,
mais tout seul? Parce que, est-ce qu'il relevait l'autre partie de la table pour jouer?
Ah
tout
oui.
Seul
ouais, il faisait des murs. Il faisait des murs de ping-pong. Georges Moustaki. C'était sa grande passion, faire des murs de ping-pong. Bonne réponse, d'Anna Godefroy. On écoute tout de suite la question suivante.
Encore. Ma petite entreprise. Je connais pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait.
Alain Bachung avec Ma Petite Entreprise. Pourquoi on écoute ce morceau? Parce que en fait, un jour j'ai entendu un mec qui parlait de ce morceau à la radio et qui disait ce qu'il pensait que de quoi parlait ce morceau.
D'accord.
Et le mec il était là et dit ouais mais je crois que c'est un morceau sur les PME et sur la difficulté de développer les PME en France. Et donc je me disais je crois que c'est pas ça. Et donc je me suis dit ça pourrait être l'occasion de parler de poser une question sur la signification d'un texte de chanson. Je vais vous lire un texte sur qui a été dit par l'auteur d'une chanson qui parle d'une de ses chansons. Et donc ce mec il dit on nous a demandé des millions fois ce que signe, je comprends
pas.
Il a rien compris de ce qu'il s'est
dit. Si je peux me permettre.
Oh, laissez-moi souffler de ce moment. C'est fatigant cette
émission.
C'est un
mec qui parle d'un mec qui a écrit un texte.
Tout le monde cuve, on est en plein mois d'août.
Il y a un compositeur.
Ils étaient combien, les gars?
Il y a un compositeur, un membre d'un groupe qui parle d'une chanson qu'il a composée.
Mais on ne sait pas le groupe, là, tu dis un groupe.
Voilà, je vais vous demander quel est le groupe et quelle est la chanson.
Ok, ça part.
Donc ce compositeur dit on nous a demandé des millions de fois ce que signifiait cette chanson. Don et moi, donc Don, c'est son collègue dans le groupe, on était fans de paroles au sens caché et profond. Au fil des années, on a avancé les théories les plus ridicules au sujet de cette chanson. Elle a désormais sa propre mythologie, un peu comme la pseudo-mort de Paul McCartney. La chanson a été condamnée par les évangéliques. On nous a accusé des choses les plus folles, notamment qu'on était membre de l'église de Satan. De quelle chanson parle ce musicien qui en est également
Rolling Stones, Léa de Louise Attaque.
Non, Léa de Louise Attaque.
Il y a une histoire derrière cette
chanson. De quoi, sataniste?
C'est
pas ACDC.
Hard Day's Night.
C'est pas Hard Day's Night des Beatles. Qu'est-ce qui se passe avec Louise Attaque? Pourquoi vous avez dit Louise Attaque sur le satanisme?
Oui, non, c'est pas sur le satanisme, mais c'est sur la chanson à double sens.
Les
ah, ok, d'accord.
Moi, je suis pas venu pour écouter des trucs sur Louise Attaque. Hein,
c'est pas les Rolling Stones.
Attends, mais qui m'a raconté que Joey Starr était fan de Louise Attaque? C'est un groupe américain.
Un
groupe américain qui, jusqu'à Thriller de Michael Jackson, cet album était l'album le plus
Super
vendu
non,
aux États-Unis.
Ah,
aux États-Unis.
Trois cafés gourmands.
Trois cafés gourmands. Pourquoi on parle pas plus souvent de trois cafés gourmands?
Parce que la réponse est dans la question.
Le nom de ce groupe.
Oui.
Un groupe avec un mec qui s'appelle Dawn.
Ouais, Don. Mais non, c'est pas les autres, là, tout le monde est fan, là, comment ils s'appellent je ne vais pas trouver. Mais un truc hyper.
Moi, ça me fait penser à un sketch de Coluche, c'est l'histoire d'un mec.
C'est ça, les histoires qui n'en font pas.
J'ai envie de trouver un petit indice.
Alors, un indice. Alors, écoutez, on va écouter la réponse en musique et vous allez peut-être que ça va vous dire quelque chose.
Dans les Dead.
C'est pas leur non, version, mais ça.
C'est pas leur version, c'est une reprise.
Ça, c'est NTM.
Ça, ok.
Vous reconnaissez la mélodie ou pas?
Bah oui, ça me dit quelque chose.
Ok, c'est bon, Eagles.
Les Eagles, ouais, exactement, ouais, ouais. Avec la chanson
Hotel California.
Hotel California.
Tout à l'heure, attends.
Et
je déplace tout avec un petit peu les nerfs comme ça.
On a tous dansé des slow sur Hotel California.
Non.
On a tous...
Non.
Bah oui.
Et vous me disiez, ça fait partie de ces fameux slow qui s'accélèrent à la fin.
Ouais. Non.
On était comme des couillons parce qu'on savait pas si on fallait se mettre à danser un petit peu plus rapidement le
la
slow,
Java.
Si ça devenait une Java ou quoi. Bonne réponse de Manu Payet. C'était exactement les Eagles. Donc Manu Payet qui tu ne rattrapes toujours pas Anna Godefroy. C'est toujours Anna Godefroy qui est en train de. Non, c'est Quentin Lhuy.
C'est Quentin Lhuy. Est-ce que t'as noté mon point tout à l'heure?
Je l'ai noté dans ma tête, mais je ne l'ai pas noté sur le papier. Voilà, on écoute tout de suite la question suivante. Voilà. Et franchement, ça va être un morceau excellent, celui-là.
Il y a deux roses dans le jardin de maman. Il y a deux roses, roses, roses blanches. Il y a deux roses dans le jardin de maman qui seront écloses au prochain printemps.
Il n'y en a que pour NTM, hein.
Pas c'est mal. Fou, hein.
Alors, écoutez toute la discographie des gars.
C'est pire que le buzzer.
Alors, donc on écoute les petits chanteurs de l'Île-de-France.
Ouais.
C'est un peu comme les compagnons de la chanson, mais c'est des petits quelque chose. Avec un morceau qui s'appelle Il y a deux roses.
Dans le jardin.
Alors, la question. Le collaborateur. Paul Touvier, on va dire quasiment le collabo, hein, ancien chef de la milice lyonnaise, condamné à mort à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, a produit un disque 33 tours en 1967 intitulé L'amour et la vie. La conception et la naissance expliquée aux enfants. Donc là, c'est un extrait de cet album qui raconte la conception de
c'est
la
drôle,
vie aux
c'est
enfants.
C'est drôle, ces deux passions antinomiques qu'il a dans la vie.
Oui, notamment, et la collaboration.
Oui. On sent que les chanteurs, on leur a fouetté les couilles avec des ronces. Hein.
Ça, je pense que c'était un collabo.
La tonalité, je reconnais bien.
Et donc, il a sorti ce disque sous le nom de Paul Berthet, et ce disque n'aurait pu voir le jour sans le soutien et l'amitié d'un chanteur francophone qui lui a facilité la réalisation de ce disque, qui est ce chanteur.
Ah, l'autre avec son canotier, là.
Est-ce qu'il est mort actuellement?
Il est mort, c'est un chanteur qui est mort.
Georges Brassens.
C'est pas Georges Brassens.
Même Jacques Brel.
Jacques Brel! Elle a trouvé la bonne réponse. C'est Jacques Brel.
Culture, quoi.
Mais de toute façon, c'est souvent Jacques Brel la réponse aux questions. Ça, c'est
okay, d'accord. C'est bon à savoir pour la prochaine fois.
Ça, c'est un truc, quand tu sais pas à quoi jouer, tu joues à Jacques Brel. Ça, je trouve, c'est un jeu. C'est le premier qui dit Jacques Brel, il a gagné. Et je trouve, c'est quand même assez bien. Exactement, Jacques Brel qui s'est fait avoir par ce collabo. Paul Touvier appréciait beaucoup Jacques Brel. Il l'a rencontré une première fois. Il lui a confié combien ses chansons l'avaient marqué dans sa situation de proscrit. Et voilà, il était condamné à mort des années plus tard. Mais en fait, il a toujours caché à Jacques Brel qui il était. Et ben, il était un ancien collabo et donc Jacques Brel l'a aidé à fabriquer son disque.
Ça valait le coup vu le disque en plus.
Ah ben on est vraiment très content, très content qu'il l'ait fait. Merci Jacques Brel. Un point pour Anna Godefroy. On écoute tout de suite, je crois, ce qui va être quasiment la dernière question.
Parce que ça fait plusieurs fois que je t'entends dire que c'est la dernière fois.
Ça y est, c'est après. On s'arrête après.
Alors Jacques Brel.
Jacques Brel, bonne réponse à
Joesta.
Un point supplémentaire, ça, on joue pas assez des parties de Jacques Brel. Ça, c'est vraiment un jeu d'agilité, hein, Jacques Brel. Ça, c'est vraiment un jeu de rapidité. C'est le premier, celui-là qui dit Jacques Brel, il a gagné. Tout de suite, la question suivante. Donc Quincy Jones avec le morceau Sol Bossa Nova, lorsque Nicole Barclay, l'épouse d'Eddie dont on parlait tout à l'heure, qui était nulle au ping-pong, qui s'avait battre par George Moustaki, elle a proposé à Quincy Jones en 1957 le poste de directeur musical du label Barclay. Le musicien Quincy Jones n'a pas hésité une seule seconde, surtout en raison d'un aspect du métier de musicien et d'arrangeur qui lui était cher mais interdit aux Noirs dans son pays, les USA à cette époque. Quelle était cette activité ? Qui était interdite aux Noirs et qui s'est précipité en France pour accepter quand Nicole Barclay lui a proposé.
Chef de produit.
C'est artistique.
C'est artistique, complètement.
Jouer d'un instrument.
Ouais. Apprendre.
Faire de la musique.
C'est faire de la musique, mais alors quelle spécifiquement une partie de l'enregistrement d'un
chanter.
Disque
chanter.
C'est pas chanter, qui était interdite aux Noirs là-bas.
Est-ce que c'est un instrument avant?
C'est pas un
non,
instrument
c'est pas
avant.
Un instrument.
C'est pas un instrument avant.
Chef d'orchestre.
Dirigeant. Mixeur. Arrangeur.
Arrangeur. Genre, ouais. De quoi spécifiquement?
Arrangeur d'album.
Producteur.
Arrangeur de quel son, de quelle sonorité?
Les cordes.
Arrangeur Jacques de Brel. Cordes.
Ah ouais?
Exact. Jacques Brel, c'est un peu, c'est aussi, j'acceptais ouais. aussi comme réponse Jacques Brel, Jacques évidemment. Ouais. Mais c'est la bonne réponse puisque, comme le disait le pianiste de Billie Holiday, Bobby Tucker, qu'on adore et qu'on embrasse, dans les années 50, le plus sûr moyen de mourir de faim aux États-Unis était d'être un arrangeur afro-américain pour cordes. Et cet art qui était considéré comme trop sophistiqué pour les Noirs était réservé aux Blancs. Raison pour laquelle Quincy Jones, effectivement, s'est précipité sur ce job d'arrangeur de cordes. Bonne réponse de Quentin Louis. Et cette fois-ci, c'est vraiment la dernière, puisque de toute façon, j'ai plus de questions à vous poser, sauf si vous voulez jouer à Jacques Brel. Voici la dernière question.
C'est un film.
Donc là, on reconnaît Sacha Distel, qu'on adore, Sacha Distel. Sacha Distel qui a enregistré en 1959 deux chansons dans des conditions techniques très singulières. Des chansons qui s'appelaient Nuages et Oh, quelle nuit. Quelles étaient les conditions de l'enregistrement du morceau qu'on est en train d'écouter?
C'est-à-dire les conditions.
Il n'y a pas Django Reinhardt aussi là-dessus?
Les conditions. Il n'y a pas Django Reinhardt, non.
C'était dehors?
C'était pas dehors.
C'est un instru, il ne chante pas?
Non, il ne chante pas. Je crois qu'on l'entend peut-être marmonner à la fin. Je crois qu'il
marmonne.
Jacques Brel. Bah,
les conditions.
Alors, quelles conditions? Les conditions d'enregistrement. Pourquoi est-ce que l'enregistrement de ces morceaux était vraiment dans un contexte très particulier?
C'était dans un lieu particulier.
C'était dans un lieu particulier.
Dans des toilettes.
Une église. C'était pas dans une
salle de bain. Dans une cuisine.
Une église.
C'était pas dans une cuisine.
C'est quelque chose qu'on peut trouver dans une maison.
Non.
Dans une forêt.
Non.
Sous l'eau.
C'est pas sous l'eau. Ça peut se trouver sous l'eau, mais c'est vraiment suite à un mauvais concours.
Sur un bateau.
Non, c'est pas sur un bateau.
Sur une barque.
Non.
Un vélo. Moyen de transport.
C'est un moyen de transport.
Un train.
Dans un train.
Un métro.
C'est pas dans un train.
Dans un avion.
C'est dans un avion.
Ah non.
Exactement. Sacha Distel.
Il a gagné.
Il a enregistré un disque à bord d'une caravelle Air France transformée en studio à plus de 10 000 mètres d'altitude et 800 km/h afin de promouvoir l'exceptionnelle insonorisation de l'appareil. Qui vole littéralement, on a tous regardé un film déjà dans un avion et on sait l'insonorisation, on sait combien on se casse le pavillon de l'oreille.
Vous n'avez pas des casques réducteurs de son?
Et ben en 1959, je pense que vraiment c'est ce qu'on appelait les mains. Le système des mains pour se boucher les oreilles.
Mais ils ont coupé le moteur pour enregistrer ou pas?
Écoutez, on écoute l'archive vidéo de l'époque de la dame qui dit
le vol spécial auquel vous assistez est consacré au premier enregistrement à bord d'un avion en vol. Nous survolons la région du Havre. Notre altitude est de 10 500 mètres. Notre vitesse de 800 km/h. Voici Sacha Distel et son orchestre.
Merci à l'hôtesse de l'air. Voilà, et les sorties de secours se sont à l'avant, au milieu et à l'arrière. C'était une bonne réponse de qui d'ailleurs?
Et je crois que c'est
de Quentin. C'est de Quentin lui.
Oui, mais encore une fois,
tu n'as pas noté les trois derniers points.
Je crois qu'il n'y a aucun doute sur le fait que c'est Quentin lui qui remporte aujourd'hui cette flûte avec.
Bravo.
Payé par le service public.
Formidable.
Merci Quentin d'être venu. Je rappelle que vous êtes déjà salarié.
Ne l'apporte pas à ta bouche.
Bien sûr. J'essaie de faire une
précision quand même que c'est une flûte France Inter.
Ouais. J'allais dire une flûte France
Inter. Est-ce que je l'essaye? Je vais l'essayer, non?
Non, mais attends, tiens. Oh.
Ça y est.
Pas mal.
On va se prendre un buzzer au visage. Voilà, merci Quentin Louis. Merci à tous mes invités, Manu Payet, Joe Star, Anne de Petrini, Quentin Louis et Anna Godefroy d'être venus jouer avec moi pour nos auditeurs.
Merci Thomas de nous avoir invités.
Remarquable. Une remarquable partie. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Julie Depardieu, Yuxek, November Ultra, Morgane Cadignan et Yann Marguet. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïs Moreau. Les questions ont été préparées par Thierry Dupin, Bruno Chétrit et moi-même, aidé de Romain Forgeor pour tout ce qui était de rigolifier cette émission. Mathias Volant était à la réalisation, Jeanne Sarfati-Kermarek est notre attachée de production. Les morceaux sont programmés par Djoubaka et enfin la flûtiste de notre jingle et cette bonne vieille Joséphine Poncelin de l'Orchestre National de Radio France. Merci à tous de nous avoir écoutez, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qui veut gagner la flûte à bec ?